Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Organisation internationale rassemblant près de 2,4 milliards de personnes, soit un tiers de la population mondiale, le Commonwealth connaît un profond questionnement après la mort d'Elisabeth II et l'accession au trône du roi Charles III. Entre aspirations républicaines et demandes de réparation post-coloniale, l'organisation héritage direct, mais maintes fois transformée de l'Empire britannique, s'interroge sur son avenir. Quel ciment va maintenir ensemble ces États en devenant une république? En novembre 2021, la Barbade a revigoré les mouvements anti-monarchistes, en particulier dans les Caraïbes, mais aussi en Australie ou au Canada. Et nombreux sont ceux qui questionnent en coulisses l'utilité de cette structure et sa finalité. La tâche pour le roi Charles III s'annonce délicate. Regard avec nos invités. Par téléphone depuis Montréal, Marc Chevrier, professeur à la faculté de sciences politiques et de droit à l'Université du Québec, auteur de L'Empire en marche, des peuples sans qualité, de Vienne à Ottawa, aux presses de l'Université Laval. Bonjour.
Bonjour.
En studio, Virginie Roiron, maître de conférences en civilisation britannique et du Commonwealth à Sciences Po Strasbourg. Bonjour.
Bonjour.
Laurence Dubois, maître de conférences en études anglophones, spécialiste d'histoire britannique à l'université Paris 10 Nanterre. Bonjour.
Bonjour.
Le Commonwealth était central aux yeux d'Elisabeth II. Elle y a consacré énormément de temps, participant à presque tous les sommets, effectuant plus de 200 voyages officiels dans les pays membres. Est-ce qu'on peut s'attendre à un tel attachement de la part du roi Charles III, Virginie Roiron?
Oui, parce que déjà c'est quelque chose qui est le Commonwealth, c'est une organisation extrêmement symbolique. C'était le cas pour Elisabeth et ça restera le cas. Sa mère a tenu à ce qu'il devienne chef du Commonwealth à sa suite, alors que la fonction n'était pas héréditaire. Ça s'est décidé en 2018. Les membres du Commonwealth ont accepté que Charles III, devienne chef du Commonwealth à la suite de sa mère. Donc je pense qu'il y a un réel engagement de la famille royale et en particulier de la monarchie britannique avec le Commonwealth. Maintenant, ça reste une position qui n'est pas héréditaire, donc pas forcément pérenne au-delà de Charles III.
Laurence Dubois.
Le terme attachement est intéressant, je trouve, parce que ça montre bien la dimension presque affective qu'il pouvait y avoir avec la reine Elisabeth. Alors, y aura-t-il la même avec le roi Charles III? D'une certaine manière, oui, moi je partage complètement l'avis de Virginie Roiron. Il a rappelé d'ailleurs, et c'était un élément de sa biographie qui n'a pas d'importance vraiment, qu'il a découvert le Commonwealth dès l'âge de 5 ans quand il est allé à Malte et que ça fait partie de sa vie. Donc lui-même, quelque part, s'inscrit dans cette tradition de sa mère, qui est de dire ce n'est pas juste... Ce n'est pas juste une sorte de symbole qui serait un peu désincarné, mais c'est réellement quelque chose qui fait partie de sa vie. Mmh. Alors après, la fonction n'est pas héréditaire, ça c'est intéressant de le rappeler, parce que souvent on pense qu'il y avait une sorte de package qui était, il devient roi à la place de sa mère, donc il prend la fonction. Mais le fait qu'elle ne soit pas héréditaire, ça a deux aspects. Ça lui donne à la fois, alors oui, ça veut dire que ce n'est pas pérenne, et que s'il déçoit ou si quelque chose ne convient pas, ça peut s'arrêter, mais ça lui donne aussi une plus grande légitimité en fait.
Et qui sera en mesure de juger que le roi n'est pas à la hauteur?
Peut-être le secrétaire général du Commonwealth, peut-être les membres du Commonwealth.
Les membres du Commonwealth, oui, plutôt, puisque le débat a déjà eu lieu sur qui succéderait à Elisabeth. Il a eu lieu au début des années 2010. Il s'est soldé en 2018 sur ce compromis lors du sommet de Londres sur le successeur au trône et à la suite d'un lobbying assez important de la reine elle-même. Mais le débat a déjà eu lieu. Alors, il aura lieu encore à l'avenir, certainement, au moment de la succession peut-être de Charles, si une figure s'impose. Parce que là aussi, qui? Parce que la question, il n'y avait pas vraiment beaucoup de concurrence, à vrai dire. On avait pensé en 2013 à Nelson Mandela, avant 2013, pardon, à Nelson Mandela, mais voilà, des figures comme celle-ci, mais il n'y en avait plus. Donc qui, voilà, donc le monarque britannique a au moins cet avantage entre guillemets d'être de représenter la continuité et puis et voilà une certaine neutralité puis un héritage, l'héritage effectivement laissé par la reine Elisabeth dans l'organisation.
Alors on va se tourner vers Montréal avec vous, Marc Chevrier. Au Canada, le roi Charles III a été déclaré chef d'État samedi 10 septembre, le jour des funérailles de la reine a été décrété férié pour les employés du gouvernement fédéral. Le roi est représenté dans le pays par un gouverneur général et par des lieutenants-gouverneurs dans chacun des 10 États de la Confédération. Comment ce passage, finalement, et comment Charles III est-il perçu aujourd'hui au Canada ?
Bah écoutez, disons que le Canada ne forme pas un bloc monolithique, alors on pourrait peut-être distinguer le Québec du reste du Canada, même s'il y a des variations régionales dans le Canada anglais. Je dirais que, bon, d'abord, la mort de la reine n'est pas une surprise, bien sûr, elle était attendue. C'est une souveraine qui a été assez peu contestée au Canada comme telle, même si certains voyages de la souveraine au Québec ou au Canada ont accompagné parfois de quelques tumultes. Je pense, par exemple, à la célèbre visite de la souveraine en octobre 1964 à Québec, qui a été accompagné d'une émeute qui a été réprimée par la police. On appelait ça même le samedi de la matraque. Et donc, mais en général, c'était une souveraine assez bien aimée qui soulevait assez peu la controverse. Même si, bien sûr, il y a eu des manifestations de républicanisme au Québec en particulier, mais qui n'étaient pas nécessairement dirigées contre la personne même d'Élisabeth II, mais plutôt contre le principe de la couronne ou de la monarchie. Alors, évidemment, l'avènement de Charles III change la donne. Oui, c'est un souverain, disons, qui soulève moins l'enthousiasme, et il s'est fait beaucoup de spéculations sur l'avenir de la monarchie au Canada avec ce souverain, Charles III, dont, disons, le manque de charisme et de notoriété semblait être toutefois moins fort pour soutenir la monarchie au Canada. Donc, depuis la mort de la souveraine et la proclamation de Charles III comme roi du Canada, parce qu'en fait, la couronne britannique, c'est une couronne qui se distribue sur plusieurs royaumes et qui juridiquement donne naissance à des royautés distinctes. Donc, au Canada, le souverain britannique devient roi ou reine du Canada. Donc, il ne règne pas ici en tant que souverain britannique, mais en tant que souverain du Canada. Donc, en fait, c'est un artifice juridique. Mais donc Charles III, oui, a été proclamé roi du Canada, donc très rapidement après la mort de la souveraine. Cela dit, ce qui est peut-être de nouveau, c'est qu'on a assisté, du moins au Québec, à une fronde parlementaire, puisqu'au Canada, tous les parlementaires, que ce soit à Ottawa ou dans les capitales des États provinciaux, doivent prêter un serment d'allégeance au souverain et à ses successeurs. C'est même requis par la Constitution canadienne de 1867. Et jusqu'à tout récemment, les parlementaires, même au Québec, souscrivaient bon gré mal gré ce serment. Il y a déjà eu un peu de contestation dans les années 70, mais sans aller jusqu'à un refus déclaré de prêter le serment. Alors ce qu'il y a de nouveau, c'est que deux parties ont décidé de ne pas prêter ce serment, notamment depuis les élections provinciales du Québec d'octobre dernier. Et l'un d'eux a décidé d'accepter de prêter le serment, mais à la condition qu'on adopte un projet de loi au Québec pour abolir ce serment, alors que l'autre parti, qui est le Parti québécois, pour l'instant, est toujours campé dans une opposition déclarée au principe du serment. Alors, il est clair que derrière, évidemment, cette opposition se profile d'une contestation ouverte de la monarchie au Canada. Mais cela dit, il ne faut pas en conclure pour autant qu'un grand mouvement de républicanisation du Canada ou du Québec est lancé, puisque c'est quand même le fait de tiers partis. Le Parti québécois, à l'heure actuelle, n'a que 3 députés sur 125 à l'Assemblée nationale du Québec. Et puis, donc, les relais dans la société civile sont assez peu nombreux, même si on observe, oui, quelques groupes qui se forment pour l'abolition de la monarchie. Mais on ne peut pas parler pour autant d'un grand mouvement général qui agite la société. Ça ne veut pas dire que le débat n'ira nulle part, il est à suivre. Mmh.
Alors, en tout cas, c'est, si je vous comprends bien, Marc Chevrier, il s'agit principalement d'une contestation de la monarchie. J'avais lu en préparant cette émission que le rejet le plus viscéral, effectivement, au Canada, c'était au Québec, avec 71% des Québécois favorable à la sortie du Commonwealth. Finalement, ce sont deux choses différentes, mais vous confirmez ou vous infirmez ce rejet, bon, contestation de la monarchie, mais qu'en est-il par rapport au Commonwealth? Et après ça, je demanderai à Virginie Roiron et à Laurence Dubois de commenter ce que vous nous aurez dit, Marc Chevrier.
Pour le Commonwealth, écoutez, en fait, c'est un sujet dont on parle très peu. Et sans doute que si vous avez posé la question dans un sondage, après avoir posé la question de la monarchie, bon, beaucoup de gens auront une équivalence. Mais très peu de gens savent ce qu'est le Commonwealth, au Québec en particulier. Mais je dirais même au Canada anglais, puisque c'est pas un thème très discuté. C'est une question qui intéresse plus les spécialistes des relations internationales, de la politique étrangère canadienne. Mais dans le grand public, on voit très peu de débats sur le Commonwealth comme tel, sauf bien sûr lorsqu'on parle du rôle prêté au souverain comme chef du Commonwealth. Donc, je ne dis pas que le débat ne se fera jamais, mais ce n'est pas un débat très présent. Et à ma connaissance, il n'y a pas de jour du Commonwealth au Canada, sauf, je crois, dans la petite province de Terre-Neuve, complètement à l'est du pays.
Alors qu'il y a un jour de la francophonie, peut-être on y reviendra. Commentaire ici en studio, Virginie Roiron et Laurence Dubois. Et finalement, Marc Chevrier a posé une bonne question. Qu'est-ce que le Commonwealth?
Oui, là, on pointe effectivement un vrai problème du Commonwealth, c'est à savoir sa visibilité, notamment dans les pays les plus développés, c'est-à-dire le Canada, l'Australie, donc ces pays originels. Alors, le Canada était vraiment le fondateur du Commonwealth, hein, c'est avec la création de ce dominion du Canada au 19e que le Commonwealth est né, en fait, d'une certaine manière au sein de l'Empire. Et puis, le Canada a été extrêmement actif aussi dans les années 60 pour que le Commonwealth devienne une organisation qui soit pertinente en relation internationale. Et le problème, c'est qu'actuellement, le Commonwealth a perdu de cette pertinence, notamment d'abord parce que c'est une organisation qui a grossi extrêmement rapidement avec le processus de décolonisation, l'arrivée de nouveaux membres. Et puis surtout, depuis deux décennies, cette division qui s'est marquée de plus en plus entre les États qui défendaient les droits de l'homme, la démocratie, etc., et puis des États qui considéraient que l'imposition la défense de ces valeurs, etc., était une façon d'essayer d'intervenir dans leur politique intérieure, et qui sont devenus de plus en plus méfiants. Et d'une certaine façon, une des raisons pour laquelle, peut-être, je parle sous contrôle de Marc Chevrier, mais le Canada est moins impliqué maintenant, c'est que justement le gouvernement du Canada s'est beaucoup retiré du Commonwealth, a été un des premiers à ne plus financer un certain nombre d'organismes du Commonwealth pour protester contre, au départ c'était au Sri Lanka en 2013, protester contre l'organisation du sommet du Commonwealth au Sri Lanka parce que le Sri Lanka était un pays qui ne respectait pas les droits de l'homme. Et le Canada était un vrai porte-voix de cela. Et du coup, peut-être, ça explique pourquoi certains Canadiens souhaiteraient en sortir. Mais ça, c'est la partie... Et en ce qui concerne les États les moins développés, on va dire, les émergents, etc., alors eux, c'est différent. Le Commonwealth, ça a peut-être un peu plus de sens, notamment les petits États. Il faut savoir que le Commonwealth a quand même été l'organisation internationale, la première organisation internationale à attirer l'attention sur la vulnérabilité des petits États dans le monde et sur le fait qu'il fallait leur prévoir un traitement particulier qui serait différent des autres pays en voie de développement. Et a obtenu des résultats, notamment maintenant à l'ONU, on reconnaît les petits États, les petites îles, comme étant un cas particulier des pays en voie de développement. Et ça, c'est l'œuvre du Commonwealth. Le Commonwealth agit énormément en dans les coulisses. Mmh. Mais son action n'est absolument pas visible. Son action est effectivement, donc depuis, comme je l'ai dit, une dizaine d'années, un petit peu controversée aussi parce que ce décalage entre les valeurs qu'il proclame et la réalité sur le terrain, et puis le désintérêt aussi de ces nations les plus développées, comme le Canada, qui fut pourtant un des grands membres du Commonwealth.
On peut rappeler que le Commonwealth accueille 32 des 42 plus petits pays au monde. Laurence Dubois.
Oui, pour l'importance historique du Canada dans le Commonwealth, ça c'est vrai que c'est une évidence. Même le premier secrétaire général, si ma mémoire est bonne, Arnold Smith, était canadien. Enfin, c'est le paradoxe aussi de les voir se désengager du Commonwealth. Mais sur la question de la visibilité, ça a toujours été, enfin, ça fait longtemps que c'est un problème pour le Commonwealth. Dans les années 2000, il y avait une anecdote assez amusante. Le Commonwealth, soucieux de son image, enfin conscient de son déficit d'image, avait organisé tout un tas de petits questionnaires dans les pays du Commonwealth. Et je ne sais plus si c'est en Australie, mais un pays du Commonwealth historique, on avait demandé à des jeunes gens qui était le chef du Commonwealth, et ils avaient répondu que c'était Barack Obama.
Jamaïque.
Ce qui est très intéressant, parce qu'en plus, c'est une aberration historique. Voilà. Donc, pour la visibilité, pour ce que c'est, et pour l'adhésion des peuples, véritablement, des pays du Commonwealth au Commonwealth, c'est vrai qu'il y a des doutes à avoir depuis très longtemps. Je voudrais revenir sur l'un des premiers points qui a été développé, c'est cette question de, à mon sens, c'est important, si on veut y voir un peu clair, de dissocier l'avenir de la monarchie dans les 15 royaumes du Commonwealth, Commonwealth Realms en anglais. C'est seulement 15 pays sur les 56 du Commonwealth qui, en fait, acceptent comme chef d'État la reine Elisabeth et maintenant le roi Charles III. Donc
on peut les citer, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Jamaïque,
et de nombreuses îles du Pacifique et de la Caraïbe.
Oui. Voilà. Les petits
Vanuatu,
états, beaucoup de petits états. Ouais. Mais quand même, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Et l'avenir de la monarchie, enfin, une montée du républicanisme dont on a rappelé qu'elle n'est pas aussi massive que ce qu'on pourrait croire, cette montée du républicanisme suite à la mort d'Elisabeth II. Mais à mon sens, ça, c'est différent de l'avenir du Commonwealth. On l'a vu avec l'exemple de la Barbade. En 2021, novembre 2021, je crois que vous l'avez rappelé tout à l'heure, la Barbade décide de sortir de ce système, en fait, c'est-à-dire de devenir une république, mais ne décide pas pour autant de sortir du Commonwealth. Donc on pourrait imaginer un Commonwealth différent, je ne sais pas ce que donnera l'avenir, mais on pourrait tout à fait imaginer un Commonwealth dans lequel il y aurait une minorité de pays, ou peut-être plus de pays du tout, à part le Royaume-Uni, qui serait sous l'égide du roi Charles III ou de son successeur, tout en restant dans le Commonwealth d'une manière différente.
Le premier, ça a été l'Inde.
Oui, absolument.
Ouais. Ouais.
Alors, c'est d'ailleurs pour eux qu'on avait changé, si je ne m'abuse,
en 1949,
c'est pour pouvoir intégrer l'Inde qu'on a changé les règles.
Marc Chevrier, la moindre implication du Canada dans le Commonwealth, vous partagez et vous confirmez?
Bah, écoutez, je dirais, je ne prétends pas être un spécialiste là, de l'implication du Canada dans le Commonwealth, mais ce que j'en comprends, c'est que cette implication a quand même varié à travers le temps. Il n'y a pas nécessairement de constance. Certains gouvernements ont pris à cœur la participation canadienne. Bon, justement, vous avez souligné que le premier secrétaire général de l'organisation, ou enfin du Commonwealth, c'était Arnold Smith, un Canadien, à l'époque de Lestobie Pearson, et qui a travaillé également sous l'égide par la suite de Pierre-Yves Trudeau, père. Mais peut-être aussi, on peut dire que le Canada fait sa marque dans ses débuts sur le Commonwealth en veillant à ce que, c'était d'ailleurs la doctrine de Lestobie Pearson comme celle de Pierre-Yves Trudeau, en insistant sur le fait que le Commonwealth ne doit pas devenir une autre organisation internationale comme l'ONU, comme l'ONC, comme l'OTAN et comme ce qui deviendra plus tard l'Union européenne. Le Canada, dans les années 70, voulait que le Commonwealth demeure une alliance assez souple de pays qui ont en commun évidemment l'héritage britannique et pour plusieurs la couronne, qui permettent, oui, des échanges parfois très étroits, mais pas sous la forme organisée de multilatéralisme dérivé du droit international. Et le Canada a souvent veillé à ce que, justement, le Commonwealth ne fasse pas ombrage à ce qui se faisait dans d'autres forums multinationaux, pour le meilleur comme pour le pire. C'est-à-dire qu'au fond, le Canada a un peu forgé, dans les années 60-70, l'avenir du Commonwealth. Et par la suite, certains gouvernements ont essayé, par exemple ceux de Jean Chrétien, d'utiliser le Commonwealth pour donner au Canada l'occasion de jouer son rôle de puissance moyenne. Et je dirais que c'est peut-être un des éléments qui fait en sorte que le Commonwealth se maintienne encore aujourd'hui.
On vous retrouve, Marc Chevrier, avec Virginie Roiron et Laurence Dubois, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regarde sur les défis du Commonwealth face à une compétition géopolitique de plus en plus forte. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis Montréal, Marc Chevrier, professeur à la faculté de sciences politiques et de droit à l'Université du Québec et auteur de L'Empire en marche, des peuples sans qualité de Vienne à Ottawa aux presses de l'Université Laval. En studio, Virginie Roiron, maître de conférence en civilisation britannique et du Commonwealth à Sciences Po Strasbourg, et Laurence Dubois, maître de conférence en études anglophones, spécialiste d'histoire britannique à l'université Paris-Nanterre. Nous avons terminé la première partie de l'émission avec ce que nous disait Marc Chevrier. Le Commonwealth se veut une alliance assez souple et une organisation pas comme les autres. Est-ce qu'elle est aussi, et se veut-elle aussi, cette organisation, donc le Commonwealth, un contrepoids à la francophonie? On peut rappeler que précisément le Canada fait partie des deux. Il est à l'Organisation internationale de la francophonie et du Commonwealth. Virginie Roiron.
Alors oui, le Commonwealth est une organisation très particulière, comme le soulignait Marc Chevrier. C'est une organisation qui n'est pas seulement une organisation intergouvernementale, mais également qui a des réseaux transnationaux extrêmement forts. Plus de 80 associations ou organisations affiliées au Commonwealth gravitent autour et tissent du lien entre, non seulement entre les États, mais de manière informelle, mais également entre les sociétés civiles. Et ça, c'est la force du Commonwealth, réellement, actuellement. Et c'est peut-être ce que la francophonie n'a pas su développer. Alors, ce sont des liens qui se sont tissés pendant des décennies, hein, qui sont hérités de l'Empire. Alors, assez bizarrement, le Commonwealth, c'est directement, en fait, il n'y a pas de coupure entre l'Empire et le Commonwealth. C'est une évolution, en fait, au sein de l'Empire. Alors que la francophonie est une organisation qui a été créée de toutes pièces au début des années 70 par l'initiative en plus d'Africains. Et pourtant, le Commonwealth propose une diplomatie réellement multilatérale où finalement le rapport de tous ces États avec l'ancien colonisateur, la Grande-Bretagne, est très multilatéralisé et beaucoup moins donc personnel. Et c'est vrai que le Commonwealth, c'est un espace d'échange, c'est à garder cette philosophie du club qu'il avait au tout début de son existence et où les États, et pas seulement les États, aussi la société civile, parce qu'à chaque sommet du Commonwealth, il faut savoir qu'il y a quand même une organisation de forums, que ce soit des forums, business forums ou que ce soit des forums pour les jeunes, etc., où se rencontrent des organisations de la société civile qui se réunissent, qui discutent et qui ensuite font connaître leurs conclusions aux chefs d'État qui se réunissent ensuite, aux chefs d'État et de gouvernement. Donc voilà, ça c'est un fonctionnement du Commonwealth qui allie le transnational et l'international. Et c'est vrai que la francophonie, elle reste très, voilà, ces politiques de sommet, voilà, qui, bon, certes, il y a des tentatives pour rendre les choses moins bilatérales, en fait, d'une certaine manière, et plus, développement plus de réseaux, en fait, mais qui n'est pas concluant pour le moment, et peut-être qui fait que le Commonwealth est, en ce moment, peut-être plus attractif, notamment pour certains États africains, que la francophonie. On pense au Gabon, on pense au Togo, qui viennent de rejoindre le Commonwealth. Voilà.
Alors effectivement, il y a des allées et venues. Hein, on peut sortir du Commonwealth assez facilement, y revenir. Qu'est-ce que l'on peut dire, Laurence Dubois, des régions du monde dans lesquelles va le plus se jouer l'avenir du Commonwealth? Est-ce en Afrique? Est-ce dans la Caraïbe?
C'est quand même très difficile à dire parce qu'il y a cette notion qui a été appelée cette notion de club, de famille aussi. Ça, c'est une notion sur laquelle Elisabeth II insistait tout le temps, la famille du Commonwealth. Avec en effet aussi des sortes de réseaux d'entraide presque informels. C'est-à-dire que quand il arrive quelque chose à un petit pays du Commonwealth, les gros pays du Commonwealth, si j'ose dire, se mobilisent assez rapidement pour l'aider. Je pense à Vanuatu, Tuvalu. Et dans un contexte de réchauffement climatique où on sait quand même qu'il y a une grande partie des pays du Commonwealth qui sont directement menacés, notamment des petits pays, ça peut être assez attractif. Mais par rapport à où ça va se jouer, pour moi, il va y avoir des symboles assez forts sur Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, dans cette idée de vont-ils rompre ou pas avec la monarchie britannique. Ça, c'est un enjeu de symbole qui peut redynamiser ou affaiblir le Commonwealth, on ne sait pas, mais probablement le redynamiser, lui donner une autre dimension. Mais après, très certainement, sur des réalités géopolitiques de terrain, j'aurais tendance à penser que l'avenir du Commonwealth va plus se jouer dans les pays d'Afrique, de manière plus concrète. Donc, on est sur plusieurs niveaux. Alors, c'est aussi ce qui est intéressant avec le Commonwealth, mais qui fait qu'on ne sait pas exactement où on est. C'est qu'on est toujours sur plusieurs niveaux. Mmh. Il y a des niveaux symboliques, des niveaux formels, des niveaux plus informels. Et par rapport à cette sorte de... On pourrait appeler ça une sorte de rivalité avec la francophonie. Mmh. C'est un peu une platitude de dire ça, mais c'est un peu une rivalité héritée de l'Empire britannique et de la francophonie qui correspondait aussi à la période de colonisation française, quand même, plus ou moins, même si en effet, il n'y a pas eu la même rupture. Enfin, le Commonwealth est directement l'héritier de l'Empire britannique, et ça, on en pense ce qu'on en veut, mais c'est historiquement presque incontestable, même s'il y a plein de choses qui changent. Et d'ailleurs, on voit bien l'indifférence quand même des pays francophones à l'égard du Commonwealth. Enfin, un très bel exemple, c'est les Commonwealth Games, les Jeux du Commonwealth, dont tout le monde se fiche éperdument quand même en France ou dans notre pays francophone, et qui ont lieu tous les 4 ans. Les derniers ont lieu à Birmingham, et les prochains Jeux, je ne sais plus, en Australie, je crois. En tout cas, c'est un événement qui est important en termes de communication au sein du Commonwealth, mais pas tellement en termes de communication à l'externe. Mais je pense quand même, ce que disait Virginie Roiron est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une certaine vitalité du Commonwealth, malgré tout, qu'on ne soupçonne pas forcément quand on n'est pas dans un pays du Commonwealth, et qui est peut-être un peu moindre dans ce qu'on appelle la francophonie.
Oui, si je puis juste me permettre, je pense que il ne faut pas penser la francophonie et le Commonwealth en termes de rivalité, parce que pour les États qui en font partie, alors peut-être pas la France, peut-être pas les grands États développés, mais pour les États en Afrique, c'est très complémentaire finalement. Et on voit avec l'arrivée du Togo, du Gabon, enfin le fait qu'ils aient demandé à être membres du Commonwealth, pour eux, ça ne veut pas dire qu'ils veulent sortir de la francophonie, ça veut juste dire qu'ils veulent diversifier leur partenariat.
Aussi.
Voilà. Donc pour eux, ça n'a rien à voir avec une... Enfin, ça n'a rien à voir. C'est aussi une certaine manière un peu de politique d'extraversion. Mais on est quand même dans une complémentarité de ces deux organisations qui sont des organisations qui peuvent leur permettre d'accéder à, de manière plus facile peut-être, à des partenaires économiques différents.
Pas d'exclusivité en tout cas, évidemment, Marc Chevrier, le Canada en est un des exemples, membre du Commonwealth d'un côté et puis membre de la francophonie de l'autre.
Oui. Cela dit, le Canada adhère à ces deux alliances pour des raisons différentes et stratégiques différentes. Comme je l'ai expliqué, pour le Canada, le Commonwealth, c'est l'occasion pour le Canada d'être une puissance moyenne, réelle sur le plan mondial, à travers un forum où il a un accès privilégié par la langue, la culture, les institutions. N'oubliez pas une chose fondamentale. Le Canada est un pays totalement satellisé par les États-Unis, par l'économie, la culture, la langue. Mais le Commonwealth lui permet d'être dans un monde assez paradoxal, c'est-à-dire un monde où il y a en commun l'anglais, la culture britannique, etc., mais sans les États-Unis. Et ça donne au Canada l'occasion, donc, finalement, d'exercer un rôle peut-être plus présent que dans les autres organisations internationales où, bien sûr, les États-Unis sont présents et hégémoniques. Alors, c'est quand même un élément à ne pas oublier. Et cela est vrai pour le Canada, mais je dirais pour d'autres puissances, l'Australie, n'oublions pas l'Inde. On a beaucoup insisté aujourd'hui sur le fait que le Commonwealth regroupe beaucoup de petits États. Mais le Commonwealth regroupe également la plus grande démocratie au monde, l'Inde, qui sera bientôt le pays le plus peuplé de la planète. Et selon certaines projections, en 2030, l'Inde sera la troisième économie du monde. Alors ça va peser lourd aussi dans le Commonwealth. Quant à la francophonie, le Canada n'y est pas exactement pour les mêmes raisons. Des raisons qui sont peut-être pas tout à fait nobles, je dirais. C'est-à-dire que la raison principale pour laquelle le Canada est dans la francophonie, c'est pour surveiller le Québec. Puisque le Québec, dans les années 60, avec l'éveil national, etc., indépendantiste, a essayé de se projeter dans l'arène internationale. Il a été d'ailleurs un des moteurs de la francophonie qui, à ses origines, provenait de la société civile, chose qu'on a oubliée. Et pour empêcher que le Québec, finalement, ne vole trop facilement de ses propres ailes sur la scène internationale, le Canada n'a pas eu le choix, finalement, que d'entrer dans la francophonie pour mieux surveiller le Québec. Donc, c'est pour des considérations, je dirais, très internes que le Canada est présent dans la francophonie. Et souvent, on reproche au Canada de ne pas avoir une politique authentiquement intéressée vis-à-vis, par exemple, de la francophonie africaine. Et on le voit, on en discute d'ailleurs un peu aujourd'hui, puisque, par exemple, près de 80% des demandes des étudiants africains francophones sont refusées par l'administration fédérale des demandes d'entrée au Canada pour des permis d'études, alors que ces mêmes demandes faites par des étudiants anglophones ou du Commonwealth sont acceptées à des taux très élevés. Alors, je dirais que le Canada est présent dans les deux forums, mais pour des raisons différentes qui ne pèsent pas également.
Vous écoutez RFI. Géopolitique.
Alors, Virginie Roiron, vous avez parlé de la vitalité du Commonwealth. Je ne sais pas si, par ce propos, vous souhaitiez l'opposer à la francophonie, mais on va laisser la francophonie de côté parce que l'émission est consacrée au Commonwealth. Vitalité, je reviens dessus. Et on a bien compris qu'avec le Brexit, peut-être que le Royaume-Uni voyait le Commonwealth comme capable d'aller à la rescousse du pays. Et les Brexiteurs, notamment, s'étaient imaginés pouvoir construire un empire de zéro. Et est-ce qu'on pourrait dire finalement que le Brexit est une sorte de moteur de, alors c'est compliqué à dire en radio, de reprioritisation du Commonwealth ?
Pour la Grande-Bretagne, oui, même si, encore une fois, c'était effectivement totalement illusoire d'imaginer que le Commonwealth pourrait à un stade remplacer l'Union européenne en termes d'échanges, etc. Mais la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, est en recherche de partenariats économiques, notamment, et de signatures de traités de libre-échange, de traités de commerce, etc. Et donc, il y a eu déjà et surtout, le focus vraiment de Boris Johnson, puisqu'on n'a pas beaucoup de recul sur ses successeurs, c'était l'Afrique. Et donc, il y a eu des sommets qui ont été organisés en Grande-Bretagne sur Boris Johnson souhaitait que la Grande-Bretagne devienne l'un des premiers investisseurs en Afrique, l'un des grands investisseurs en Afrique, y compris en Afrique francophone, et donc renouveler ce partenariat avec l'Afrique. Alors peut-être, alors là aussi on est dans l'hypothèse, hein, mais peut-être que cela a permis d'une certaine manière au Gabon et au Togo de rentrer. J'émets vraiment une hypothèse là, le fait que le sommet se soit tenu en 2022 au Rwanda, pays extrêmement économiquement dynamique, mais dont la situation en termes de droits de l'homme et politique est critiquée pour le moins, donc qui ne respecte pas vraiment la charte du Commonwealth et les valeurs, etc., défendues par le Commonwealth. Le fait que ces deux pays, le Togo et le Gabon, soient entrés de manière aussi facile, finalement. Parce qu'on a vu, hein, le Rwanda, quand il est rentré en 2009, il a mis le temps. Hein, il a fallu qu'il montre patte blanche, qu'il montre qu'il s'engageait dans le bilinguisme, qu'il montre que sa démocratie était porteuse d'espérance, y compris, et pareil pour le Cameroun, quand le Cameroun est rentré. Voilà. Mais finalement, le Togo et le Gabon, on ne leur a pas demandé grand-chose. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'interpelle. M'interpelle sur fond, effectivement, de cette politique aussi britannique de chercher des partenariats. Est-ce que finalement l'entrée du Gabon et du Togo aurait été aussi facile si la Grande-Bretagne n'avait pas des priorités qui sont celles qu'elles sont et n'avait pas finalement donné une espèce de feu vert, même si, encore une fois, hein, ça n'est pas que la Grande-Bretagne qui décide, mais c'est un des grands pays du Commonwealth. C'est le premier contributeur. Boris Johnson parle du Commonwealth comme étant un engrais miracle pour faire du commerce et on parle d'un avantage compétitif, hein, à faire partie du Commonwealth en raison de la proximité des systèmes et des normes, etc. Donc là, on a quand même ce questionnement-là qui est lié effectivement à la situation post-Brexit.
Donc si on avait d'éventuels doutes sur l'avenir du Commonwealth, se sont bien fondés sa raison d'être, je veux dire, le Brexit effectivement lui donne un nouveau souffle. Laurence Dubois.
Pour moi, le Brexit, la campagne des partisans du Brexit et puis l'après-Brexit, on a assisté à une sorte de retour à la théorie des trois cercles de Churchill. Enfin, un retour. Je ne suis pas sûre que la politique étrangère britannique ait jamais quitté cette théorie, mais cette théorie de Churchill qui consistait à dire qu'il y a trois cercles, en gros l'Europe, les pays anglophones, plutôt les États-Unis, et puis le Commonwealth. Bon, comme c'était en 1948, c'était l'Empire et le Commonwealth. Et que l'intérêt de la Grande-Bretagne, c'est de rester vraiment au centre de tout ça, sans vraiment favoriser l'un par rapport à l'autre. Ce qui d'ailleurs a coûté cher à la Grande-Bretagne, puisque De Gaulle, connaissant très bien cette théorie, a mis son veto en 1963 à l'entrée du Royaume-Uni dans ce qui ne s'appelait pas l'Union européenne à l'époque, disant qu'ils ne seraient pas des partenaires sincères. Donc évidemment qu'avec le Brexit, ils sont à la recherche de partenaires et que ces partenaires, ils les trouvent dans ces trois cercles. Le Brexit ne signifie pas renoncer à des échanges commerciaux avec l'Europe, hein, absolument pas. C'est juste qu'il faut redéfinir comment ça se ferait. Et bien sûr, il y a une sorte de facilité de dire on va essayer de reconstruire tous les liens commerciaux qu'on avait avec le Commonwealth, qui évidemment c'est très difficile à faire parce que malgré tout ces liens ils existaient, ils étaient très 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 forts dans l'après-guerre. Ils ont été très forts jusqu'à l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne, donc dans les années 70. Et puis, de manière tout à fait naturelle et logique, c'est l'Union européenne qui est devenue le premier partenaire commercial du Royaume-Uni. Donc, ça veut dire qu'au moment où ils sortent, c'est-à-dire en 2020, ils sortent effectivement de l'Union européenne, leurs relations avec les deux autres cercles sont de toute façon affaiblies. Donc ça reste à reconstruire. Même s'il reste cette relation spéciale avec les États-Unis, dont on a vu quand même les effets dans la sombre histoire des sous-marins australiens, où les États-Unis étaient dans le coup, mais bizarrement les Anglais aussi. Enfin, on se demande pas pourquoi, en fait. Le Brexit pourrait théoriquement, en effet, être une sorte de reconsidération du rôle important que peut jouer le Commonwealth dans l'économie britannique. Mais là, c'est vraiment plus en termes de commerce, échange économique que sur le reste.
On va repartir à Montréal avec vous, Marc Chevrier. On n'a pas le temps de développer, mais parmi les critiques qui sont portées à l'encontre du Commonwealth, c'est le fait qu'il soit trop UK-centré, c'est-à-dire trop centré sur Londres, etc. Il m'est absolument indispensable, je pense, à ce stade, on est à la fin de l'émission, d'aborder la colère qui monte parmi les pays membres du Commonwealth pour la réticence de la monarchie à confronter son passé colonial. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Marc Chevrier ?
Écoutez, vu d'ici, évidemment, au Québec comme au Canada, on n'a pas échappé à la vague de contestation du colonialisme. Donc, sous diverses formes, il y a d'ailleurs une question dont on parle à Montréal, c'est que la statue du père de la création du Canada en 1867, John A. Macdonald, qui a été aussi le premier premier ministre du Canada, cette statue a été déboulonnée par des manifestants antiracistes et même décapitée, parce qu'en plus, on lui reprochait d'avoir été l'instigateur d'une politique de ségrégation contre les autochtones, dont les enfants ont été placés dans des pensionnats. C'était une décision fédérale de l'époque, etc. Et donc la monarchie, je dirais, indirectement, est atteinte à travers cette contestation. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on assiste, par exemple, à une critique virulente de la monarchie comme responsable du colonialisme, comme par exemple ce qu'on a vu dans certains États des Caraïbes. La raison en est que, par exemple, au Canada, les autochtones, du moins certains autochtones, sont très attachés à la couronne, parce que dans leur esprit, les traités qui ont été conclus avec les différentes nations autochtones ont été conclus avec la personne même du souverain. Et donc, une partie des peuples autochtones, peut-être pas tous, qui demeurent très attachés à la couronne et qui ne vont pas jusqu'à faire ce procès de la couronne au nom de la lutte anticoloniale. Et je fais le lien, par exemple, à ce qu'on observe même en Nouvelle-Zélande, puisque là-bas, il y a un traité très important dans l'histoire du pays, le traité de Waitangi, signé avec les Maoris. Et là aussi, on entend à peu près le même argument, à savoir que, bon, peut-être les Maoris se tiendraient encore à la couronne parce qu'elle symbolise une alliance contractuelle entre le peuple maori et les colons britanniques. Donc, je dirais, oui, cette vague de contestation au nom de la critique coloniale, on l'entend ici. Mais pour l'instant, elle n'aboutit peut-être pas à une révocation comme telle du principe monarchique. Et le plus bel exemple de ça, c'est que le gouvernement fédéral canadien, M. Justin Trudeau, a nommé comme gouverneur général du Canada une Inuit, Mary Simon, donc un geste de réconciliation du Canada avec les peuples autochtones, même si sa nomination a été critiquée parce que Mary Simon ne parle pas les deux langues officielles, le français et l'anglais, mais l'anglais est une petite.
Merci Marc Chevrier. Je rappelle que vous étiez avec nous par téléphone depuis Montréal, que vous êtes professeur à la faculté de sciences politiques et de droit à l'Université du Québec et auteur de L'Empire en marche des peuples sans qualité de Vienne à Ottawa aux presses de l'Université Laval. Et avec moi en studio, Laurence Dubois, maître de conférences en études anglophones, spécialiste d'histoire britannique à l'Université Paris-Nanterre, et Virginie Roiron, maître de conférences en civilisation britannique et du Commonwealth à l'Institut d'études politiques à Sciences Po, Strasbourg. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À samedi prochain.